m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je viens avec courtoisie, mais...
Oui. Avec courtoisie,
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Calme, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Et bonsoir chers auditeurs, pardon, bienvenue à ce Restons Courtois du 15 juillet, ce Restons Courtois du jeudi, ce Restons Courtois de Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut et je suis en plateau ce soir avec Vendry de Yarpel. Bonsoir Vendry.
Bonsoir Marc, bonsoir à tous.
Un sommaire assez lourd ce soir chers auditeurs, puisque vous n'avez pas été sans le savoir, mais hier soir l'Assemblée Nationale a voté à une courte majorité, et cela définitivement, la loi autorisant l'euthanasie et le suicide assisté. On va évidemment y revenir dans cette émission. On recevra à 17h45 Fabrice Epelboin avec cet expert du web et des libertés. Nous reviendrons sur ce concept curieux d'ingérence intérieure qu'essaye de nous vendre l'extrême centre en ce moment. Après un court débat, nous recevrons Nicolas Bay, eurodéputé, vice-président d'ECR au Parlement européen et aussi membre d'IDL, le parti de Marion Maréchal. Et à 19h, nous recevrons le député du Rassemblement National, Christophe Benz, député RN de Haute-Marne, qui était référent de son groupe sur le texte fin de vie. Il s'est battu pendant des mois, voire des années, contre ce projet de loi, cette proposition de loi, et on reviendra en détail avec lui sur ce sujet. Mais justement, puisqu'on parle de fin de vie, chers auditeurs, il aura fallu attendre de voir le crépuscule de ce quinquennat agonisant. Il aura fallu l'obstination d'Emmanuel Macron et Yael Braun-Pivet pour que ce texte légalisant l'euthanasie et le suicide assisté soit voté finalement à une courte majorité. Peu importait que celle-ci se réduisait vote après vote. Peu importait que le Sénat par trois fois ait rejeté ce texte. Emmanuel Macron voulait sa loi. La présidente de l'Assemblée nationale voulait que son nom entre d'une manière ou d'une autre, et quelle que soit l'ouverture dans l'histoire, c'est chose faite. Des décennies de lobbying, abondamment financées par l'argent public et de chantage affectif, auront finalement porté leurs fruits. Dans l'Assemblée, les groupes politiques ont été fidèles, si on peut dire, à eux-mêmes. Droite exceptée, tous ont mis leurs principes aux orties pour céder aux sirènes du progressisme et d'un sens de l'histoire bégayant jusqu'au hoquet, voire jusqu'à la nausée. Alors on les a vus, au nom de la liberté et de la fraternité, terrible dévoiement, la France insoumise votant main dans la main avec les puissants lobbies des mutuelles, bizarrement favorables à l'euthanasie pour des raisons que vous devinerez, les écologistes si promptes à défendre le vivant, levant la main pour organiser la mort, les socialistes qui invoquent sans cesse la justice sociale, acceptant qu'un pays incapable d'offrir partout des soins palliatifs puisse proposer la mort avant d'avoir garanti l'accompagnement, les centristes si attachés à la responsabilité, ouvrant une brèche anthropologique permettant à des déficients mentaux interdits de signer un chèque, de choisir de se tuer, permettant aussi enfin à des dépressifs aux tendances suicidaires au fond de s'y adonner et de sombrer, aux grandes dames de toutes les équipes soignantes en psychiatrie qui consacrent leur vie, au contraire, à les maintenir justement en vie. Là, ce qui expliquait que chaque vulnérabilité devait être protégée consacre aujourd'hui un dispositif qui fait naître une question terrible chez les plus fragiles. Suis-je encore un sujet de soins ou suis-je devenu un sujet de coups, de charges ou de compassion? Ai-je le droit de prolonger ma fin de vie quand je lis dans le regard de mes proches la fatigue, la douleur et sans doute une forme de libération? C'est humain et tellement compréhensible. Mais c'est au nom de cette humanité que le législateur devait, par-dessus toute chose, s'abstenir de légiférer. Et pourtant il l'a fait, se cachant derrière des lignes rouges qui sautaient au fur et à mesure des amendements, comme pour démontrer que le principe d'un garde-fou était de céder. Le temps n'est plus à la lente stratégie des petits pas, il fallait aller vite, en ces temps d'incertitude institutionnelle, il fallait accélérer. Mais peut-on leur en vouloir à ces législateurs? Depuis 5 ans, le débat est noyé sous les sophismes. Donner la mort à la personne qui la demande, c'est le sommet du soin, nous explique le philosophe Raphaël Enthoven. Tout est là, lorsque les mots changent de sens pour modifier les consciences. La guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage et la mort est un soin. Le champ lexical est trop violent, il faut en trouver un nouveau. La confrontation à la mort est trop vertigineuse, dotons-nous de cotonneux et confortables parachutes pour nos consciences. Les réserves du corps médical, noyons-les sous des sondages demandant aux Français s'ils souhaitent une fin de vie digne, comme si certaines personnes chercheraient une fin de vie indigne. La belle affaire, il y a aussi l'ordre des priorités. Dans une France où des milliers de malades n'ont toujours pas accès aux soins palliatifs auxquels ils ont droit, on crée avant tout un droit à mourir. Comme si notre incapacité à accompagner jusqu'au bout trouvait sa solution dans la possibilité d'abréger la fin. On nous explique que non, que les soins palliatifs seront renforcés. Là aussi, les pays occidentaux ayant légiféré avant nous démontrent l'inverse. Sébastien Lecornu a annoncé déposer un recours devant le Conseil constitutionnel. C'est bien tardif et cela sonne aussi juste que les mains de Ponce Pilate plongeant dans la bassine d'eau. Les lois passent, les majorités changent, une mauvaise loi peut toujours être abrogée, mais une abdication morale laisse des traces bien après la fin des règnes qui l'ont rendue possible. C'est tout le drame de cette loi qui a été votée hier soir, chers auditeurs. On en reparlera, je vous l'ai dit, en deuxième partie d'émission avec Christophe Benz. Rebonsoir, Vendry de Yarpel.
Bonsoir, Marc.
Après ce sujet un petit peu grave, évidemment, sur lequel nous reviendrons abondamment, beaucoup de choses dans l'actualité, et notamment une polémique un peu plus légère, mais tout aussi grave, mise en lumière par l'incendie qui a ravagé la forêt de Fontainebleau. On parle quand même de 5% du parc forestier, de cette magnifique forêt qui est partie en fumée, un incendie criminel, et revient finalement, comme tous les étés, comme un marronnier, la question des canadairs, ces hydravions transportant de grandes quantités d'eau qu'ils larguent sur les incendies. C'était la grande polémique de l'année dernière. Gabriel Attal, alors Premier ministre, il y a deux ans, s'était engagé à en commander. Et finalement, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué que ça.
Exactement, et vous l'avez très bien rappelé, cher Marc, 5% de la forêt de Fontainebleau est partie en fumée. Ça représente à peu près 2000 hectares. Et donc, face à ce drame, parce que c'en est un, Jean-Luc Mélenchon a décoché le premier, une flèche de son carquois à l'encontre de Gabriel Attal, parce que justement, il expliquait que c'est Gabriel Attal qui avait gelé les commandes de deux nouveaux canadairs. Donc, si on fait une rétrospective, en 2022, Emmanuel Macron expliquait qu'il avait promis qu'il fallait 16 canadairs, que la flotte française devait avoir 16 canadairs. Alors, on en avait 12 qui étaient vieillissants. Donc, il a promis de commander 4 nouveaux canadairs. Ces 4 nouveaux canadairs, il y en a 2 qui étaient financés par l'Union européenne.
Ça coûte une certaine somme.
Exactement.
C'est des avions à plusieurs millions d'euros.
C'est ça, complètement. Il me semble que c'est 50 millions d'euros le Canadair, quelque chose comme ça.
Ouais.
Et donc, Emmanuel Macron va voir l'Union européenne, demande à l'Union européenne de financer 2 Canadairs et explique qu'il va financer lui-même 2 autres Canadairs. Force est de constater que Gabriel Attal arrive à Matignon, il explique qu'il faut réduire la dépense publique et donc met ses commandes de Canadair, enfin les gèle complètement. En tout cas ceux qui sont financés par la France. Ça montre quoi ? Ça montre une clochardisation de la France, une tiers-mondialisation de la France et une incapacité totale du politique de pouvoir prévoir des crises. Politique, un dirigeant d'État, c'est celui qui va prévoir les crises qui arrivent. Alors on nous explique, comme pendant le Covid, que c'était impossible de prévoir la crise du Covid. On savait très bien que dans tous les rapports, on nous expliquait qu'il y allait avoir bientôt une pandémie et on n'avait pas de masque. Et ben c'est pareil, tous les ans, on sait très bien qu'il va y avoir des sujets autour des incendies et du réchauffement de la planète. Et ben on n'a toujours pas de canadair. Parce que nos politiques sont incapables de prévoir.
Parce qu'on est sur le coup de communication permanent, en fait. On répond à une crise qu'on ne prévoit pas, on fait des annonces et derrière, on se dit que c'est géré, en fait.
Ouais, complètement. Enfin, c'est à se demander ce qu'ils apprennent à l'ENA ou à l'INSP, quoi. La bonne gestion d'une institution, c'est très bien, encore si elle est bien gérée, tant mieux. Mais savoir prévoir à long terme, et c'est ce qu'on apprend dans les armées, c'est ce qu'on apprend à n'importe quel officier de l'armée de terre, c'est prévoir et s'adapter. Prévoir et s'adapter, je pense que c'est les deux mesures, enfin les deux qualités d'un chef et donc les deux qualités d'un bon élu.
Prévoir et aussi se souvenir, puisque après Gabriel Attal, c'est Gérald Darmanin qui a été mis en difficulté, le garde des Sceaux, et via un triste fait divers, la mort d'un jeune homme de 16 ans, Chemseddine. En quoi est-ce que cette mort, aussi tragique et brutale soit-elle, peut concerner directement le ministre de la Justice, Vendry de Yarpel ?
Alors, je ne sais pas si nos auditeurs s'en souviennent, mais Chemseddine, c'est un jeune garçon d'Île-de-France qui s'est fait tuer par plusieurs individus. En 2024. Donc, en fait, ils sont tous mineurs là-dedans. Et donc, récemment, on a appris que les deux mineurs qui étaient les suspectés du meurtre avaient été relâchés par la justice et complètement libérés avant leur procès. Donc, sans bracelet électronique, sans aucun contrôle judiciaire et sans autre mesure de répression.
Pour bien expliquer à nos auditeurs, ce sont donc des délinquants, des criminels qui sont aujourd'hui en liberté dans la nature, sans contrôle, sans rien.
Exactement, on a des criminels qui sont présumés meurtriers et qui aujourd'hui sont dans la nature. Et alors pourquoi ? C'est intéressant, à cause d'une loi qui a été votée et dans laquelle il y avait un vide juridique que le Conseil constitutionnel a vu tout de suite, et dès juin 2025, le Conseil constitutionnel avait rappelé à l'État et avait dit à Gérald Darmanin de changer cette loi et qu'elle avait un an pour le faire. Qu'est-ce qu'a fait Gérald Darmanin ? Rien du tout. Aucun politique ne s'est penché sur le sujet parce que, je sais pas, il travaille pas ou, ou voilà. Ce qui est intéressant avec cette affaire, c'est qu'on accuse souvent le laxisme de la justice. Mais là, ce n'est pas le laxisme de la justice. Le juge n'a juste appliqué la loi. En revanche, ici, c'est l'imprévoyance complète de l'État et le manque de travail de l'État.
Et Gérald Darmanin, qui est le premier ministre de la justice de droite, en tout cas considéré comme de droite, depuis Rachida Dati, on l'a vu extrêmement présent sur le terrain carcéral, mais on l'a moins vu effectivement sur le côté magistrature, quoi.
Ouais, mais en fait là, Gérald Darmanin, c'est celui qui avait mis ses prisons de haute sécurité, c'est celui qui fait parler de lui en ce moment parce qu'il a fait quand même un boulot de dingue qui est celui de revoir tous les fichiers dans les affaires de violences sexuelles sur mineurs. Et donc, il a eu plus de 1000 fichiers qui ont été retravaillés avec plus de 600 interpellations, quelque chose comme ça. Et donc, oui, il y a une volonté de faire. Mais ce qui est incroyable, c'est que dans l'affaire notamment des violences sexuelles sur mineurs, c'est l'incapacité de l'État à croiser les fichiers. Parce que 64% des auteurs de violences sexuelles qui ont été identifiés comme violences sexuelles, leurs victimes sont devenues majeures depuis.
Ouais.
Et donc vous voyez, on a 64% des gens qui sont dans ces fichiers-là, qui ont été victimes, reconnues victimes, qui aujourd'hui sont majeures et donc qui ont vécu toute leur adolescence, toute leur jeunesse avec ce traumatisme-là. Par manque, alors certains diront de moyens, certains diront de détermination politique, mais par manque de cap de politique. Et alors que le travail des policiers et gendarmes est incroyable et il faut le saluer sur le terrain.
Y a aussi, on a fait Gabriel Attal et Gérald Darmanin, on va faire un peu Emmanuel Macron vendredi de Guerpèze, puisqu'il y a eu cette cérémonie du 14 juillet, ce très beau défilé militaire comme tous les ans qui rassemble petits et grands devant la télévision. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très plaisant de faire découvrir à ses enfants l'armée française qui défile, parce que cela crée toujours une grande émotion. 14 juillet assez particulier, puisque son est revenu de manière assez inattendue et de manière assez brutale le principe du QR code. Donc pour accéder à la tribune, il fallait se munir d'un QR code. Évidemment, c'était beaucoup plus compliqué que cela, et surtout ça a posé de véritables problèmes légaux.
Oui, bien sûr. En fait, alors c'est dingue parce que le 14 juillet, c'est quand même le grand moment d'union nationale où tout le monde doit pouvoir faire partie de cette union nationale. Moi, je me rappelle, étant gamin, de suivre mes parents, mes grands-parents, aller au défilé du 14 juillet, voir la grandeur de la France et de nos armées. Et cette année, que nous a sorti la préfecture de police de Paris et l'État, celui de nous imposer des QR codes et donc de faire au préalable une demande sur le site de l'Élysée, demande que moi j'ai faite. À titre personnel, parce que je voulais aller voir ce 14 juillet, et bon, moi j'ai été refusé, comme certains, donc j'ai très mal pris.
Vous n'aviez pas de QR code, vendredi.
Je l'ai très mal pris, donc je n'ai pas eu de QR code. et donc, bon nombre de Français, en fait, se sont retrouvés dans cette situation-là. Alors, on n'en a pas beaucoup parlé, il y en a un qui s'est battu, c'est Amine Elbaï, qui est un juriste qui s'est battu avec son association, qui est allé faire un recours au tribunal administratif. Le tribunal administratif a donné raison à Amine Elbaï en annulant le QR code. Nous étions vers 19h-20h le 13 juillet et coup de tonnerre vers 2h du matin, le Conseil d'État est saisi et remet en fait le QR code en place.
Donc le Conseil d'État, l'État, l'Élysée a saisi le Conseil d'État pour faire suspendre la décision du tribunal administratif.
Alors, je ne sais pas si c'est l'Élysée ou la préfecture de police de Paris. Il me semble que c'est la préfecture de police de Paris, parce que c'était surtout pour des sujets de sécurité. Mais c'est assez dingue. Vous voulez tuer des libertés, vous mettez des QR codes partout. On a eu ça pendant le Covid, vous l'avez très justement rappelé. Là, on l'a pour des raisons de sécurité. Vous pouvez trouver n'importe quelle excuse et vous mettez des QR codes quand vous voulez. Et donc, ça relève, je crois, d'un sujet de liberté publique qui est hyper importante parce qu'on est en train de perdre toutes nos libertés publiques dans ce pays. Et donc là où vous avez déjà des anciens, nos plus âgés, qui ne maîtrisent pas le monde numérique forcément, ils sont mis de côté. Ceux qui n'ont pas fait leur demande sont mis de côté. Et donc petit à petit, cette union nationale, elle est complètement détricotée.
Ouais. Et justement, pour parler de liberté et un petit peu de QR code, nous recevons aussi Fabrice Epelboin. Bonsoir Fabrice, comment allez-vous ?
Bonsoir, très bien, merci, ça va, et vous?
Très bien, merci. Fabrice Epelboin, vous êtes, on peut le dire, un entrepreneur du web. Vous êtes aussi un fervent défenseur de la liberté notamment sur Internet. On va vous faire réagir évidemment sur le sujet qui nous occupe, à savoir ce curieux concept d'ingérence intérieure. Mais je voulais vous faire réagir sur ce QR code décidé un 14 juillet dans une légalité, on va dire, toute relative, Fabrice.
Oh bah de toute façon, la légalité est devenue très relative. Hein. C'est plutôt amusant. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ça ne va pas durer très longtemps et on va remplacer le QR code, qui est quelque chose de très visible, de très contraignant et très consommateur en ressources. Il faut des barrages de police en amont pour filtrer les gens, par des technologies beaucoup plus discrètes et beaucoup plus efficaces, qui sont la reconnaissance faciale et la vidéosurveillance. Donc très rapidement,
chouette,
au final, il vous suffira d'être autorisé pour pouvoir pénétrer un lieu, que ce soit un défilé du 14 juillet ou n'importe quoi. Parce que ces technologies qu'on a vues, qui sont apparues dans le grand public à l'occasion du Covid, servent en fait à créer des frontières artificielles au sein du territoire. Vous n'avez pas le droit d'aller au restaurant parce que vous n'avez pas le QR code, ça, on est tous passés par là. Aujourd'hui, vous n'avez pas le droit d'aller sur les Champs-Élysées parce que vous n'êtes pas détenteur du QR code. Demain, au final, on vous donnera l'autorisation d'aller sur les Champs-Élysées. Les caméras vidéo qui sont sur les Champs-Élysées vous reconnaîtront, sauront que vous êtes venu et identifieront immédiatement une personne qui n'est pas autorisée à y être. Et c'est là qu'on fera intervenir les forces de police. Ça sera beaucoup plus économique en termes de ressources humaines.
Et ce sera une société absolument formidable.
On y arrive très vite.
Mais on a vu l'accélérateur. On a vu l'accélérateur se manifester hier, puisque ça ne nous a pas échappé, Fabrice, le sénateur UDI Laurent Lafon, muni d'une cinquantaine de recommandations, a présenté devant les journalistes au Sénat et avec deux autres sénateurs, dont la sénatrice LR Agnès Evren, 50 recommandations. Pour lutter contre la désinformation en ligne. Laurent Lafon a notamment évoqué ce curieux concept d'ingérence intérieure, Fabrice Epelboin. Alors, les ingérences étrangères, on connaissait, on en a tous des exemples en tête, mais le concept d'ingérence intérieure, on ne l'avait pas vu venir. Qu'est-ce que ça vous évoque ?
Ah, ça m'évoque des citoyens qui se réunissent pour essayer de peser sur le débat public en ayant des actions militantes. Donc, grosso modo, n'importe quel appareil militant de n'importe quel parti politique peut tomber dans cette définition.
On appelle ça une démocratie, en fait.
Oui, on appelait ça une démocratie, mais ça, c'était avant. Mais effectivement, c'est le fait de participer de façon coordonnée et complice à, grosso modo, au débat public d'un pays.
Et concrètement, qu'est-ce que ça promet ? Est-ce que, alors, on a vu quand même se lever quand même une foule de protestations, alors évidemment éloignée du bloc central, mais on a vu quand même au sein des Républicains que cela a fait hurler. Visiblement, la sénatrice Agnès Evren a été obligée de rétropédaler et de publier un communiqué dans lequel elle réfute le terme ingérence intérieure. Alors, ce qui est très amusant, c'est que ce terme figure dans le rapport qu'elle a signé, ce qui laisse plusieurs hypothèses. Soit elle n'a pas lu le rapport, soit elle a changé d'avis opportunément, soit elle s'est fait dire c'est trop tôt Agnès, attends un petit peu.
Ouais, se fout de notre gueule.
Ce qui, dans tous les cas...
Je suis plutôt pour cette hypothèse.
Ouais.
C'est malheureusement courant de la part des politiques d'avoir ce genre de comportement vis-à-vis de leur électorat. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça prouve qu'au moins au sein des Républicains, ils se sont aperçus qu'il y avait une ligne de fracture au sein de leur électorat et que certains de leurs électeurs pouvaient les quitter. Si jamais ils allaient dans ce sens des libertés, c'est plus inquiétant pour ce que ça dit du Parti Socialiste et du groupe du Bloc Central qui ont co-signé ce rapport parlementaire.
Au moins, on
a un bloc cohérent politiquement. Le Bloc Central est pour la mise en place d'un dispositif de censure généralisé.
Vendry de Garpel, vous avez travaillé sur le sujet. Si vous avez une question ou une remarque à faire à Fabrice Epelboin.
Oui, dans ce rapport, il y a notamment l'étendue des pouvoirs de l'ARCOM, notamment sur tout ce qui... surtout les influenceurs et sur les plateformes, donc les nouveaux médias, ce qu'on appelle les nouveaux médias. En quoi est-ce que c'est important de mettre ces nouveaux médias-là dans ce rapport ? Est-ce que c'est parce qu'ils vont faire, ils vont être beaucoup plus puissants pendant la présidentielle 2027 ? Est-ce qu'on va devoir compter sur eux en termes d'opinion, etc. ? Et est-ce qu'il y a une crainte vis-à-vis de ces nouveaux médias qui prennent de plus en plus d'ampleur ?
La crainte, elle est très simple. Hein. En dessous de 40 ans, vous vous informez ailleurs que dans les médias mainstream. vous informer à travers des réseaux sociaux ou des plateformes telles que YouTube. Ce ne sont pas tout à fait des réseaux sociaux. Et à partir de là, vous avez accès à une quantité d'informations qui est infiniment plus vaste, plus diversifiée et avec beaucoup de n'importe quoi, hein, par rapport aux médias mainstream qui proposent quand même quelque chose d'assez bordé, on va dire. Donc, au final, ces nouveaux médias sont absolument centraux dans la fabrication de l'opinion publique pour tout ce qui a moins de 40 ans en France. Mmh. Ça représente une partie significative du corps électoral. Et puis, les gens vieillissant, aujourd'hui, la frontière, elle est à peu près à 40 ans. Demain, elle sera à 50 ans. Mais on a, dès la prochaine élection présidentielle, une partie assez significative du corps électoral qui va se faire son opinion en se confrontant à des médias qui ne sont pas du tout des médias mainstream.
Et justement, dans ce rapport, on apprend que 20% des Français, de ceux qui s'informent via les nouvelles, via ChatGPT, tout ce qui est intelligence artificielle. Et justement, avec la mise en place d'une espèce de labellisation des médias, est-ce que certains journaux n'auront plus le droit d'être des sources de référence, comme ça a été le cas avec Wikipédia, pour ces IA génératives?
C'est déjà le cas. Il y a tout un tas de sujets qu'il est compliqué de traiter avec des intelligences artificielles génératives. Moi, j'ai basculé, grosso modo, la moitié de ma consommation d'informations est basculée sur des intelligences artificielles génératives. Typiquement, ce rapport du Sénat, je l'ai balancé à une intelligence artificielle et j'ai commencé à discuter avec elle pour comprendre ce qu'il y avait dans ce rapport. Je ne l'ai pas lu en intégralité, j'en ai lu que certains extraits, mais j'ai surtout interagi avec une intelligence artificielle. Et je fais ça de façon quasi systématique pour tous les rapports parlementaires qui m'intéressent. Et donc c'est vraiment devenu une pratique quotidienne. Pareil pour les études scientifiques, tout ça passe directement dans une intelligence artificielle et à partir de là, j'ai une discussion avec l'intelligence artificielle qui m'apprend infiniment plus qu'un journaliste qui aurait lu l'étude et qui m'en parlerait alors qu'il n'est en rien spécialiste du sujet sur lequel il écrit. Donc ça, c'est un énorme problème parce que cette bascule est très rapide. 20%, c'est gigantesque pour des technologies qui sont apparues il y a à peine quelques années. Il y a énormément de sécurité qui sont intégrés dans ces intelligences artificielles. À partir de là, selon vos centres d'intérêt, vous allez vous heurter plus ou moins rapidement à ces sécurités. Si vous n'avez aucun intérêt de discuter de problèmes liés, je vous en prends deux au hasard, le climat et l'immigration, vous ne verrez jamais ces limites. Mais si tentez de discuter de climat ou d'immigration avec une intelligence artificielle, vous allez très rapidement vous heurter à des sécurités qui font que certaines sources ne seront jamais prises en compte, que certaines prises de position seront systématiquement balayées et que certaines réponses n'arriveront jamais et vous donneront de la langue de bois. On constate ça dans toutes les intelligences artificielles dans tous les pays. Hein. Si vous interrogez une intelligence artificielle chinoise sur Tiananmen, vous aurez la même langue de bois. Les intelligences artificielles disponibles sur le territoire européen ont exactement le même type de sécurité, mais évidemment, sur Tiananmen, il n'y a aucun problème, elle pourra contrôler la vérité.
Mais alors, ça pose. Alors, on sort un petit peu du débat, même si on reste un petit peu dedans, Fabrice. Le problème, c'est que si tout le monde, si par exemple, si dans quelques mois, toutes les études scientifiques seront rédigées à partir de l'IA, il y a bien un moment où l'IA va commencer à tourner en rond, en réalité, puisqu'elle va rentrer dans un cercle où elle va s'auto-alimenter, et où au final, comme il n'y aura plus de création humaine à proprement parler, cela va assécher, de manière certaine, les bases de données de l'IA, en fait, en quelque sorte. La question est très mal posée, mais vous avez...
Non, mais oui, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. L'IA va finir par manger ce qu'elle produit elle-même, et au bout d'un moment, on va avoir le même effet, finalement, que sur les photocopies de notre enfance. C'est-à-dire qu'à force de photocopier une photocopie d'une photocopie, on va commencer à perdre très sérieusement en qualité. C'est l'un des dangers qui est devant nous vis-à-vis des IA. On n'en est pas là, mais on pourrait en arriver là, parce qu'à ce stade, les IA ont quasiment bouffé tout ce qui était possible en matière de contenu.
Pour revenir sur la liberté et sur ce rapport, à quoi vous attribuez cette espèce de volonté de ce qu'on peut appeler l'extrême-centre, je pense maintenant, à quoi vous attribuez cette volonté de l'extrême-centre, justement, d'entrer vraiment dans une espèce de volonté de contrôle total de l'information? Alors évidemment, il y a des raisons purement électorales, mais est-ce qu'il y a un peu plus que cela? Est-ce que c'est de l'ordre de la philosophie, cette approche, Fabrice?
Oui, je crois que philosophiquement, on a renoncé au débat, ce qui, dans le pays des Lumières, est un peu triste. Mais il y a tout un tas de sujets sur lesquels on ne peut pas faire débat. Il est interdit de débattre. Le débat, ça inclut nécessairement, de part et d'autre, de la mauvaise foi, des fausses informations que l'adversaire se doit de démentir. C'est finalement, c'était un art qui était très français, hein, le débat, souvent pour tout et n'importe quoi, et on est vraiment en train de fermer ce chapitre de l'histoire du pays. Le fait de faire débat n'est plus une option démocratique. Et la démocratie doit s'entendre aujourd'hui hors du débat pour tout un tas de sujets. Et c'est vraiment un moment important dans l'histoire de la France qui est en train de se dérouler devant nous. On est quand même un pays dans lequel les cafés de la Révolution française jusqu'aux émissions polémiques des années 80, même 90, au final, je crois que Ce soir ou jamais a été la dernière émission de débat. Aujourd'hui, on a des émissions de débat où, grosso modo, on débat entre personnes qui sont grosso modo d'accord. Mais on n'est plus capable, dans ce pays, de débattre, que ce soit dans les médias, que ce soit souvent entre amis. C'est un art qui se perd. Et à défaut d'être en mesure de débattre, eh ben on censure le camp qui est minoritaire, en tout cas par rapport aux gens qui sont au pouvoir.
Le problème, c'est que le camp minoritaire est aujourd'hui celui qui essaye d'imposer le contrôle. Parce que à l'époque où le bloc central était tout puissant et écrasait, on va dire, ce qui restait de la gauche, la gauche et la droite, ou l'extrême droite à l'extrême gauche, selon les prismes des gens, aujourd'hui, le bloc central est aujourd'hui en espèce de petit îlot minoritaire broyé entre les deux extrêmes, entre guillemets. C'est là où peut-être ça rend la chose totalement inaudible et presque un petit peu totalitaire, parce qu'on a vraiment le sentiment d'une minorité politique qui essaye d'imposer sa loi et sa version des faits, de l'histoire, de tout, à une majorité qui, justement, vote de plus en plus extrême pour s'en débarrasser, en quelque sorte.
Alors, on est entre deux extrêmes. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté une vision de la démocratie qui est signalée comme une limite depuis Lafayette, qui est la dictature de la majorité. Là, on a la dictature de ce qui est devenu une minorité, mais qui a encore toutes les manettes de pouvoir en sa possession et qui va les garder bien longtemps, même si l'élection présidentielle se passe mal, elle gardera encore les manettes. Donc oui, on est dans une dictature d'une minorité qui impose sa vision des choses et ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire, ce dont on peut parler et ce dont on ne doit pas parler, à travers les dispositifs qui permettent aux citoyens de parler. Parce que pour les médias, il y a l'ARCOM. Pour ce qui est des réseaux sociaux, pour l'instant, c'est très compliqué d'interdire les discussions sur certains sujets. Donc, on fait sauter les comptes de ceux qui suscitent ces discussions. Et puis, demain, on filtrera la visibilité de tous ceux qui osent y participer. Pour l'instant, ça ne vous aura pas échappé. Ça s'attaque plutôt à l'extrême droite. Demain, ça s'attaquera, n'en ayez aucun doute, à l'extrême gauche, parce qu'elle finira, elle aussi, par poser des questions qui souligneront une majorité qui s'oppose à une minorité. Donc tout le monde sera affecté. Quelle que soit d'ailleurs l'issue des présidentielles, de toute façon, il y a un effet cliqué qui fera que ce mode de faire démocratie qui consiste à censurer son adversaire risque de perdurer.
Alors après, on voit, je vous laisse la parole, Vendredi de Garpel, mais on voit une dernière question de ma part. On voit aussi l'autre extrême. On a vu Jean-Luc Mélenchon organiser des conférences de presse avec justement ce qu'il appelle de manière assez fallacieuse les nouveaux médias, puisque on a vu qu'il y a derrière cette appellation nouveaux médias, donc ce qui est en soi une bonne chose de reconnaître, de légitimer politiquement l'existence de ces nouveaux médias. Il y a eu aussi, on a vu la tentation, d'ailleurs la tentation actée de Jean-Luc Mélenchon de ne s'entourer que de médias qu'il s'est amis, adhérant à ses thèses ou étant en tout cas en très bons termes idéologiques et intellectuels avec la France Insoumise. Il y a aussi paradoxalement aussi... Il va s'emparer de ces nouveaux médias pour se créer aussi sa propre bulle. Et là aussi, on a une vision, il y a une vision qui n'est pas celle de l'extrême centre vis-à-vis de ces nouveaux médias, mais en tout cas, une vision très partisane de ces nouveaux médias qui sont vus plus comme des canaux de diffusion de sa propre pensée que des espaces de débat, entre guillemets.
Oui, enfin, honnêtement, les médias, que ce soit nouveaux ou anciens, sont des canaux de diffusion de la pensée de groupes politiques. Il se trouve que du côté de l'extrême gauche, l'écosystème de médias mainstream qui relaie la pensée de l'extrême gauche est loin d'être inexistant. Mais il y a aussi un effort considérable qui a été fait depuis 4-5 ans pour créer des nouveaux médias et qui ont atteint un seuil d'audience tout à fait respectable. Et donc, donner une forme de priorité à ces nouveaux médias est tout à fait cohérent. Vous savez, il faut aussi comprendre, Jean-Luc Mélenchon, il a le traitement de plus en plus dans les médias mainstream respectable, qu'a eu l'extrême droite pendant très longtemps et qu'elle a encore un peu. Et donc forcément, il va chercher une oreille qui lui est plus favorable et autre chose que de se faire cracher à la figure dès qu'il est face à des journalistes mainstream. Ouais. Ça peut se comprendre. Hein. Mmh.
Vendry de Garpel, dernière question pour notre invité.
Oui, est-ce que vous pensez que les Français, qui sont en majorité dans le pays de droite et plutôt tournés vers Marine Le Pen, en tout cas c'est ce que disent les différents baromètres des dernières semaines, vont accepter ça, vont accepter le fait qu'on ait des médias qui soient validés en fait, par le pouvoir? Et est-ce qu'ils ne se tourneraient pas justement vers ces nouveaux médias ou ces médias alternatifs? Comment est-ce que les Français, vous pensez, vont accueillir ça?
Il est fort vraisemblable qu'on assiste très rapidement dans les mois qui viennent à une reprise en main de l'algorithme de YouTube par le pouvoir. C'est ce qui se passe en Angleterre. Et ça permettrait de forcer l'algorithme de YouTube à vous proposer des contenus issus des médias mainstream et du coup enterrer les contenus que vous êtes habitués à voir sur YouTube et qui ne portent pas la bonne opinion. C'est déjà le cas en Angleterre. YouTube n'a pas fait beaucoup de résistance. Il n'y a pas de raison de penser que ça n'arrive pas très rapidement en Europe. Ce qui fait que fondamentalement, vous serez confronté dans votre consultation de nouveaux médias qui passe essentiellement par YouTube, au fait que le moteur de suggestion ne vous suggérera plus tel ou tel média auquel vous étiez habitué. Donc c'est effectivement, ça invisibilisera tout un pan de ces nouveaux médias. Tous ceux qui ne seront pas, en fait, labellisés. On est face à cette vieille idée d'Emmanuel Macron qui est de labelliser les médias. Mmh. Donc, même s'il n'y aura vraisemblablement pas de véritable opération de labellisation avec un label officiellement décerné, on devine tous. D'ailleurs, il y a quelques podcasts qui sont cités dans ce rapport sénatorial. On devine tous qui vont être les podcasts labellisés comme Hugo Décrypte et quels seront les podcasts qui ne seront pas labellisés comme Thinkerview ou Vincent Lapierre. Mmh. Ceux-là ont déjà, pour certains, reçu des pénalités sur YouTube qui les rendent beaucoup moins visibles. C'est le cas de Thinkerview, ce sera vraisemblablement le cas de Vincent Lapierre assez rapidement. Mmh.
Merci Fabrice Epelboin, entrepreneur du web et vigie de nos libertés, principalement sur Internet. Merci d'avoir été avec nous à l'antenne de Radio Courtoisie dans l'émission Restons Courtois. Je vous rappelle, chers auditeurs, que cette émission est aussi la vôtre, que ici aussi c'est un espace de liberté. Vous pouvez poser vos questions à l'adresse courtoisie@rc.fr ou par téléphone au 01 46 51 00 85. Frédéric nous portera vos messages et nous répondrons à vos questions et à vos observations en plateau. Restez avec nous, on revient dans quelques instants, mais d'abord un petit message de votre radio.
Vous êtes près de 2 millions à nous écouter, mais moins de 20 000 à donner. Pourtant la gauche veut nous bâillonner, la gauche veut nous tuer. Répondez avec 1 euro. 1 euro pour garantir vos idées. 1 euro contre la censure. 1 euro pour rester libre. Faites un don sur soutenir.rc.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016, Paris. Par avance, merci.
De retour à l'antenne de Radio Courtoisie dans l'émission Restons Courtois, présentée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut et je suis en plateau avec Vendry de Garpel, journaliste chez Valeurs Actuelles. Valentin Gore du service politique vient de nous rejoindre. Bonsoir Valentin. Avec vous, nous allons faire un petit tour de cette actualité politique, puisque on ne va pas vous laisser partir en vacances comme cela, chers auditeurs. Si l'élection présidentielle n'est pas encore lancée, les écuries s'installent, les écuries se mettent sur la ligne de départ. On voit arriver des nouveaux concurrents, d'ailleurs, qui égrènent ça et là l'actualité. Je rappelle que pour la suite de l'émission, nous recevrons à 18h30 l'eurodéputé Nicolas Bay, eurodéputé adhérent du parti de Marion Maréchal et vice-président du groupe ECR au Parlement européen. Puis à 19h, nous recevrons le député du Rassemblement national Christophe Benz, député de Haute-Marne et référent du groupe RN à l'Assemblée sur justement ce texte fin de vie. Il a fait partie des orateurs en première ligne contre ce texte. On peut aussi citer le député LR Philippe Juvin, la députée UDR Adèle Mansoury ou l'UDR Vincent Trébuchet. En tout cas, ils ont été nombreux, ces parlementaires, à s'opposer à cette proposition de loi. Et nous y reviendrons bien évidemment avec Christophe Benz. Mais en attendant, parlons de cette élection présidentielle. Et une fois n'est pas coutume, et pour faire plaisir à nos auditeurs de Radio Courtoisie, parlons de la gauche, puisque à la question du Sénat, qui est un endroit assez mystérieux où peu de personnes habituellement vont, un aréopage socialiste assez conséquent, puisqu'on retrouvait l'ancien premier secrétaire du Parti Socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, le sénateur Rachid Temal, tous ces gens ont un point commun, ils aiment beaucoup François Hollande. Et il se trouve que François Hollande était là, François Hollande a tenu un discours, alors François Hollande en pleine forme, François Hollande auréolé d'un excellent baromètre, puisqu'il devient la première personnalité purement politique préférée des Français, alors derrière Michel-Édouard Leclerc et d'autres personnalités un peu moins marquées, mais en tout cas François Hollande est redevenu la personnalité politique des Français selon ce baromètre OpinionWay. Je crois.
Sud Radio Paris Match.
Sud Radio Paris Match.
Sud Radio Paris
Match. Merci Valentin. Donc François Hollande, on l'a beaucoup annoncé à cette antenne, puisqu'on le voyait un petit peu venir avec ses grosses pattes, mais François Hollande prépare son retour, et d'ailleurs il ne s'en est pas caché pendant cette soirée, il prépare effectivement sa candidature à l'élection présidentielle, l'occasion de revenir aux affaires, l'occasion de se venger d'Emmanuel Macron, et l'occasion finalement, Valentin Gore, de revenir 10 ans plus tard avec des Français qui disent au fond, il était sympathique cet homme.
Ah ben sympathique certainement, il était incompétent aussi, c'est un détail, mais en tout cas il y a son mandat n'a pas été un franc succès pour la France. Vous avez dit oui cette soirée à la question du Sénat, qui est un endroit alors qui n'est pas vraiment au Palais du Luxembourg, un peu plus loin sur le boulevard Saint-Michel, c'est un bel endroit, et il s'y passe souvent des choses, parce que Emmanuel Macron lui-même avait réuni ses proches en 2016 là-bas, avec François Patriat qui est sénateur de Côte d'Or, qui l'avait soutenu, plus pour très longtemps jusqu'en septembre, puisque vous avez raison, il ne se représente pas. Donc François Hollande, oui, qui a dit hier soir, ça a filtré, comme on dit, je ne peux pas être un candidat de témoignage. Et c'est tout l'enjeu pour lui, parce qu'il serait ridicule de voir un ancien président de la République se lancer pour faire, je ne sais pas, 7% ou même 15%.
Alors il fera toujours plus qu'Anne Hidalgo.
Il fera certainement plus. Et même en 2022, il a été révélé par complément d'enquête, je crois, je cite le service public pour une fois, que François Hollande, en 2022, avait réfléchi à un moment donné à éventuellement mettre Anne Hidalgo sur la touche.
Une équipe était constituée, un programme était en cours d'élaboration, c'est allé assez loin. Oui.
C'est allé assez loin, il n'y est pas allé. Cette fois, on voit bien que tout est très carré pour aux professionnels pour qu'ils se lancent. Malgré tout, il manque encore quand même quelque chose d'un peu concret, d'un peu profond, parce que vous avez cité ce baromètre des personnalités qui repose quand même sur la sympathie. Moi, je me souviens que Simone Veil a été en tête de ce classement pendant 20 ans, comme Jacques Delors et d'autres personnalités. On se demande un peu pourquoi, d'ailleurs. C'est pas pour autant que entre la popularité et la présidentialité, il y a une différence certaine.
Absolument.
Mais en tout cas, il sera intéressant de voir comment François Hollande va passer cet été à la rentrée et comment justement il peut y avoir ou non une étincelle. Pour l'instant je vois mal quand même l'étincelle qui lancerait sa campagne autrement qu'effectivement pour une candidature de témoignage à 15% maximum.
À 15%, on est quand même légèrement au-delà du témoignage.
Ah bah bien sûr, non bien sûr.
Enfin, en fait, je veux dire,
on entrevoit, mais qui ne permettrait pas, ou alors vraiment il faudrait que ça soit très tassé, mais c'est vrai, vous avez raison, il y a une possibilité que ça le permette, ce qui est quand même un peu aberrant. En tout cas, si François Hollande n'arrive pas au moins troisième ou au moins au second tour, ça sera quand même un échec, parce que quand on a été premier, c'est difficile de jouer les seconds rôles, malgré tout.
Vendredi de Yarpel sur François Hollande.
Oui, non, mais moi, je suis toujours fasciné par ces gens qui sont fascinés justement par les anciens. J'ai l'impression que cette présidentielle, on va toujours convoquer ceux du passé, alors que ce sont eux qui nous ont mis dans la situation dans laquelle on est et qui ont ruiné le pays en réalité. Et donc, on a, je pense à Dominique de Villepin, par exemple. Pourquoi les gens sont allés chercher Dominique de Villepin?
La guerre en Irak.
Est-ce que vous l'avez déjà écouté, Dominique de Villepin, en discours?
C'est pénible, une catastrophe.
Dominique de Villepin, c'est Ségolène Royal aussi. C'est le retour des ex avec François Hollande.
On va revenir à cette primaire socialiste.
Je pense que le paysage politique est tellement pauvre aujourd'hui pour les Français, et les Français sont déjà désintéressés de la politique, alors ils vont chercher ceux qu'ils connaissent déjà, parce qu'ils ne seront pas surpris, ils savent que de toute façon, ils n'auront pas de problème, donc on va chercher les anciens. C'est comme, et je crois que c'est un peu le réflexe que les Français ont eu lors de la dernière élection présidentielle, avec ce retour d'Emmanuel Macron en 2022.
Vendredi de Yarpel dit quelque chose d'intéressant, Valentin Gore, puisqu'il est vrai que... sous Giscard, on regrettait Pompidou, sous Mitterrand, on regrettait Giscard, sous Chirac, on regrettait Mitterrand, Sarkozy, Hollande, ainsi de suite, en fait.
Bah, la République était belle sous l'Empire, oui, c'est vrai, toujours une nostalgie, c'est vrai. Malgré tout, j'ai quand même du mal à voir chez François Hollande à quel moment ça pourrait se traduire. Je pense que les gens se disaient, ah oui, finalement, on l'a peut-être jugé un peu durement. Je pense que c'est ça, là, le regain de popularité qu'il a. C'est vrai qu'il a été très violemment attaqué parfois, peut-être trop, y compris sur des choses que, par exemple...
Et en étant chez Valeurs Actuelles, on est bien placé pour le savoir.
Oui, on est bien placé pour le savoir.
On l'a
parfois accusé de faire tomber la pluie, quand même. Il y a eu une certaine violence qui peut-être n'était pas méritée personnellement, mais de là à dire qu'on a besoin de lui absolument pour les 5 ans qui viennent, ce serait quand même une image incroyable, c'est-à-dire ce serait la reconduction du même monde, qui sait à ce compte-là, dans 5 ans Emmanuel Macron qui reprendrait la place de François Hollande, enfin c'est là on est chez Borges là,
un abominable relais
c'est le jour sans fin, c'est relais. Le Truman Show, donc non je crois qu'il fait, mais c'est vrai, vous avez raison Vendry, entre Dominique de Villepin, Ségolène Royal, c'est vraiment le retour des anciens. Ce qui dit aussi que malgré tout, la nouvelle génération, y compris macroniste, et d'abord macroniste, n'a pas vraiment réussi à cranter, comme on dit dans le sport. C'est-à-dire qu'on voit quand même qu'ils n'ont pas su créer avec les Français une relation un peu profonde, puisque visiblement, on cherche chez les anciens peut-être à se rassurer.
Le nouveau monde donne envie de revenir à l'ancien monde, en quelque sorte.
Mais pour revenir à François Hollande, la seule chose dont on peut lui faire le crédit, c'est qu'il a incarné un temps la stature de chef de guerre. Et après les attentats de 2015, justement, il avait été très virulent envers Daesh et l'État islamique et avait mené tous les combats possibles. Il faut dire qu'il avait quand même réussi à faire cette coalition incroyable entre les différentes armées du monde pour aller tuer Daesh et éliminer l'État islamique. Et donc,
il avait même été jusqu'à proposer la déchéance de nationalité pour les djihadistes et la gauche ne lui a jamais pardonné cela d'ailleurs.
Exactement. Et peut-être que l'époque étant tellement violente, avec tellement de conflits, peut-être que les Français sont en partie rassurés par François Hollande. Moi, j'ai du mal à le croire, parce que je ne suis pas assez personne. Non, mais peut-être qu'il y a cette idée-là qui ressurgit. Emmanuel Macron n'a pas réussi à séduire sur ce sujet-là en disant que lui était le chef de guerre, etc.
Malgré... Pourtant, il fait tout pour. Hein.
Bien sûr. Et donc peut-être qu'il y a ce truc-là un peu. Après, c'est vraiment... les attentats de 2015, c'est la seule chose qui a marqué le quinquennat François Hollande. Sauf si vous en avez d'autres...
Alors, est-ce que François Hollande pourrez-vous rassurer en 2027, chers auditeurs? Vous pouvez répondre à cette question à l'adresse courtoisie@rc.fr ou par téléphone au 01 46 51 00 85. J'ai quand même envie, donc, dans le cadre de cette potentielle candidature de François Hollande, de vous raconter une petite histoire, chers auditeurs, celle de la primaire de la gauche. Et parce que ça, c'est à la fois tellement anecdotique qu'on pourrait s'y désintéresser, mais dont l'histoire est tellement emblématique aussi de cette gauche qui ne sait plus où se positionner. Donc vous avez tous le tableau en tête, Jean-Luc Mélenchon est candidat, comme il est dit lui-même, c'est propre, c'est carré, il y a un candidat, il y a un programme, Roulez Jeunesse, enfin Roulez Jeunesse, pas lui quoi, du coup, et en face, la gauche non mélenchoniste a pendant des mois essayé d'organiser une espèce de primaire de la gauche hors Jean-Luc Mélenchon, où tout le monde s'est précipité au portillon, François Ruffin, Alexis Corbière, Clémentine Autain, Olivier Faure, enfin... tout Nicolas Maillard-Rossignol, le maire de Rouen, Carole Delga, enfin bon, Bar Cazeneuve, enfin bon, tout le monde, pour qu'au final, Olivier Faure, poussé par ses opposants, décide de soumettre au Parti Socialiste presque une primaire de la primaire, en quelque sorte, un vote sur le mode de désignation du candidat. Olivier Faure voulait une primaire ouverte à tous les candidats, que ce soit Marine Tondelier, François Ruffin ou autre, et potentiellement lui-même, et il y a une primaire fermée, souhait porté par ses opposants. Ses opposants ont gagné le vote, alors pas eu beaucoup de votants, mais en tout cas, officiellement, les socialistes se sont prononcés, ce serait une primaire fermée, donc uniquement réservée aux socialistes. Le seul problème, c'est qu'on en est toujours au même point. Pour l'instant, il n'y a que deux candidats déclarés à cette primaire. Philippe Brun, député de l'Eure, que si vous n'êtes pas journaliste politique et habitué de l'Assemblée nationale, vous ne savez pas qui c'est. Et Ségolène Royal, donc, que vous connaissez beaucoup trop bien. Et donc, vous avez cette primaire qui n'existe pas. Vous avez Raphaël Glucksmann qui laisse toujours planer le doute sur le fait qu'il y participera. Et François Hollande qui a d'ores et déjà fait savoir que cette primaire, normalement prévue à l'automne, ne l'arrangeait pas du tout. Et qu'il y avait peu de chances qu'il y participe aussi. Donc, on en revient finalement à cette espèce de serpent qui se mord la queue et finalement toujours cette espèce d'aveu de la gauche. Nous ne savons pas quoi faire face à Jean-Luc Mélenchon.
Chez les Républicains, ils ont fait la même chose. Rappelez-vous avec ce vote des adhérents sur est-ce que Oui. C'est le chef de parti qui y va, donc Bruno Retailleau. Est-ce qu'on fait une primaire ouverte ou est-ce qu'on fait une primaire fermée?
Oui, mais
vous vous rappelez de ce vote?
Oui,
mais c'est exactement la même chose.
Et ça a été tranché assez, ça a été tranché pour
oui,
le coup assez vite.
Pour le coup assez,
Et de manière
indolore. Mais de fait, les LR se retrouvent, enfin se sont retrouvés jusqu'à tard avec Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau.
Mais Laurent Wauquiez d'ailleurs depuis est parti chez Edouard
Philippe. Qui est parti chez Edouard Philippe depuis.
Bruno Retailleau a envoyé un message à Edouard Philippe.
On est plus ou moins dans la même configuration avec 6 mois de retard.
Au fond, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, et puis le reste finalement ne s'entendra jamais, Valentin Gore.
Bah c'est possible, hein. Il faut quand même pas. Il y a une possibilité qu'Edouard Philippe et Gabriel Attal tout de même s'entendent au bout du compte, même si c'est loin d'être certain, à mon avis, en dépit de ce qu'ils disent. Pour EPS, bah, c'est très simple, c'est-à-dire que ce sont des gens qui continuent d'agir comme si le Parti Socialiste, comme si nous étions en 2002 ou en 2007, que le Parti Socialiste était l'un des deux grands partis structurants de la vie politique française, que tout le monde se passionnait pour savoir qui de l'un, qui de l'autre. En fait, tout ça, c'est bien terminé. Hein. Donc, ils essaient de rejouer le jeu des Fabius, des Strauss-Kahn, de Royal, en 2007 déjà, qui avait emporté à l'époque très largement la primaire fermée du PS en 2007. Mais tous ces gens-là ne se rendent pas compte qu'ils sont vieux et qu'il n'y a plus personne pour s'intéresser à ce qu'ils font. Donc, évidemment, la primaire, puis ça, c'est toujours très médiocre, hein, la politique au PS. Il y a un côté toujours avec ces petits lieutenants qui se battent. Alors, on voit bien que des gens qui ont une ambition un peu sérieuse comme François Hollande ou Raphaël Glucksmann ne vont certainement pas aller s'enfermer dans cette catastrophe qui a donné, alors c'était plus ouvert la dernière fois, c'était tout à fait saisissant, en 2022 on l'a oublié, il y a eu une primaire de ce genre qui a débouché sur la candidature de Christiane Taubira qui n'a même pas pu ensuite être candidate, ça a duré 15 jours, enfin c'est ridiculisé si c'était pas déjà fait pour le reste de sa carrière.
Ça a accéléré la possibilité d'un retour.
Bah, bien sûr, vous le dites très bien. Donc vraiment, le Parti Socialiste, voilà, on voit mal sur quoi. À part soutenir François Hollande, si j'étais eux, c'est peut-être leur meilleure carte. Hein, ce sont des naufragés hein, pour le reste.
C'est quand même terrible pour cette gauche qui va être au final obligée de choisir entre François Hollande et Raphaël Glucksmann. Le monde d'avant qui n'a pas laissé que des bons souvenirs et le monde actuel qui n'inspire pas grand-chose en réalité. Ouais. C'est tout le drame de Raphaël Glucksmann, c'est qu'on a tout le monde a compris le positionnement, qu'il pouvait ramener des voix, on l'a vu aux élections européennes, mais derrière, Raphaël Glucksmann, il y a un gros potentiel Valérie Pécresse quand même dans l'incarnation en quelque sorte.
Ah, et oui, bien sûr, bah, d'autant que Glucksmann, vous l'avez dit, c'est les élections européennes. Il y a quand même des différences, surtout à gauche, où l'électorat de gauche aime bien comme ça tenter des expériences aux européennes. Il y a eu Bernard Tapie, il y a eu Daniel Cohn-Bendit, il y en a eu d'autres. Je crois que Christiane Taubira, d'ailleurs, avait fait une liste une année. Donc l'électorat de gauche comme ça tente des choses aux européennes. Bon, on se dit, ça coûte... C'est un coup pour rien, donc on peut voter pour des gens un peu différents. Mais c'est quand même très différent de voter pour ensuite déjà un homme et non une liste à l'élection présidentielle avec M. Glucksmann qui, par certains aspects, peut paraître sympathique. Hein, il n'a pas l'air antipathique, mais il doute quand même beaucoup. On ne sait pas très bien où il est. Il y a cette fameuse phrase quand même où il a dit, pour le déplorer, qu'il se sentait davantage chez lui à Berlin ou à New York qu'en Picardie. Donc c'est quand même pas des phrases idéales quand on veut commencer une campagne présidentielle.
C'est le mot qu'on puisse dire. Valentin Gore pour clôturer sur Glucksmann. Les vacances approchent,
Oui, sur Raphaël Glucksmann, ce qui était intéressant, c'est que vous vous rappelez qu'il y avait eu ces notes qui avaient fuité de campagne qui lui expliquaient qu'il fallait qu'il aille chercher les CSP+, pas les CSP-, qu'il fallait chercher. Alors, ils avaient donné des prénoms, c'était assez marrant. Nathalie, l'ingénieur nucléaire de Nantes. Il me semble qu'il y avait ça, etc. Et donc là, on voit complètement dans ces notes qui avaient fuité, en fait, l'impossibilité pour Raphaël Glucksmann de rassembler, quoi, en dehors de sa propre fanbase. Et encore, je ne sais même pas s'il en a une.
Sa base électorale, pour rester dans la francophonie.
Oui, parce qu'il y a un cochon.
Il est là. Il y en a même deux maintenant. Il y Il y a pour les petites et les grosses coupures.
Et donc oui, non mais Raphaël Guzman, on et puis il faut le voir en meeting. Je pense que c'est, moi je l'ai jamais vu en meeting, mais ça doit être assez marrant. Et c'est vrai qu'il y a un potentiel Pécresse à fond sur la carnation.
Oui.
Et il va finir dans le jingle de cette émission.
il y a de fortes chances. Commentaire d'une auditrice à l'instant. Hollande, tout mais pas ça. Voilà, bon, écoutez, ça synthétise assez bien, je pense, la réaction des auditeurs et des auditeurs de Radio Courtoisie. Restez avec nous, chers auditeurs. On revient à vous dans quelques instants, mais d'abord un petit message de votre radio.
1 euro par auditeur, 1 euro par mois. 1 euro peut nous aider, peut nous sauver. L'été est la période la plus difficile de l'année, mais Radio Courtoisie reste fidèlement à vos côtés chaque jour, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pour nous sauver et préserver notre liberté d'expression qui vous est chère, ne nous abandonnez pas maintenant. Avec 1 seul euro, pendant l'été, donnez-nous les moyens de continuer à parler. Faites un don sur soutenir.rc.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016, Paris.
Et de retour à l'antenne de Radio Courtoisie dans l'émission Restons Courtois, présentée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut et je suis avec vous jusqu'à 19h30 avec Valentin Gore et Vendry de Yerpel, tous les deux journalistes chez Valeurs Actuelles. Je rappelle que vous pouvez participer à cette émission en envoyant vos questions et vos observations, vos remarques, critiques et encouragements à l'adresse courriel courtoisie@rc.fr ou par téléphone au 01 46 51 00 85. Frédéric se fera un plaisir de nous apporter vos questions et vos observations que nous lirons à l'antenne et auxquels nous tâcherons de répondre. On a fait le tour de la gauche. On va évidemment, comme nous allons avoir Nicolas Bay puis Christophe Benz, on va garder peut-être les questions concernant le Rassemblement National à plus tard. Il y a d'autres candidats sur les lignes de départ et évidemment il y a Éric Zemmour. En tout cas, un candidat reconquête. Visiblement, ce sera Éric Zemmour. Éric Zemmour, qui, on le rappelle, a fait 7%, qui a été la surprise de la campagne présidentielle de 2022, qui avait été donné très haut dans les sondages, qui finalement a fait 7% à l'élection présidentielle. Aucun député aux élections législatives de 2022. 5% tout juste aux élections européennes avec Marion Maréchal, et on en reparlera avec Nicolas Bay. Puis 0,8% aux élections législatives de 2024. Aujourd'hui, Éric Zemmour a annoncé son intention, en tout cas, de se représenter à l'élection présidentielle de 2027. A-t-il raison, messieurs ? Valentin Gore.
Alors je commence, a-t-il raison ? Certainement oui, parce qu'il incarne quelque chose qui n'existe pas ailleurs sur la scène politique, ça on peut pas le lui enlever. Moi je pense qu'il va commencer à devenir un homme politique intéressant, puisque finalement, ce qui lui a beaucoup manqué en 2022, d'abord c'est l'expérience, c'est le recul, et c'est l'étape essentielle à toute personne qui veut avoir un destin en France, la traversée du désert. Mmh. Et c'est là qu'on voit si les gens, oui ou non, tiennent dans l'adversité. Vous avez rappelé ces mauvais scores, donc on va voir s'il est capable d'en sortir. Je pense que la candidature de Marine Le Pen est plutôt une bonne option pour lui, parce que ça lui permet d'abord de continuer à la taxer de socialisme, au moins en matière économique, et puis ça évite aussi le duel de jeunes générations qu'il aurait pu avoir avec Sarah Knafo. Donc c'est sans doute plutôt une bonne option. Malgré tout, électoralement parlant, il est assez probable que le résultat soit difficile, parce que évidemment il y a d'abord l'enjeu du vote utile. Les gens ont bien compris que pour gagner au second tour, il valait mieux que le Rassemblement National, puisque c'est plutôt lui, et même très certainement sa candidate, qui sera au second tour pour représenter cette grande famille. Il vaut mieux que dès le premier tour, sa candidate fasse le score le plus haut possible. Hein, c'est décisif. On a bien vu qu'en 2022, l'espèce de déception qu'il avait eu quand même dans son score de premier tour l'avait absolument empêché de rattraper son retard. Et puis, deuxièmement, il y a un sujet de médiatisation, puisqu'il est très probable, c'est même certain, qu'Éric Zemmour ne bénéficie pas du tout de la même médiatisation qu'il y a 5 ans, où il y avait eu un formidable effet de curiosité, effectivement, de renouvellement. Là, il est assez probable qu'il soit davantage snobé par les médias.
Vendry de Yerpel, est-ce que sans l'effet de surprise, est-ce que la campagne d'Éric Zemmour peut encore ancrer justement de la surprise ?
Ce qui va être intéressant de voir, c'est est-ce que Éric Zemmour va s'emparer de la manière de faire de la politique de ce qu'a fait Sarah Gnafo pendant les élections municipales de Paris. C'est-à-dire, est-ce qu'il va réussir à faire quelque chose de joyeux? Vous savez, c'était le slogan de Sarah Gnafo, c'était une ville heureuse. Mmh. Est-ce que Éric Zemmour va sortir de ce côté très décliniste qu'il avait en 2022, mais qui était essentiel pour le débat public? C'était celui de dire que la question identitaire était très importante, celui de faire monter des thèmes comme le grand remplacement, etc. Est-ce qu'il va sortir de cette stratégie-là et va proposer quelque chose de nouveau, avec de l'engouement, etc., comme l'a fait Sarah Gnafo? Est-ce qu'il va prendre cette expérience-là ou est-ce que du fait de la candidature de Marine Le Pen, du maintien de la candidature de la chef de file du RN, est-ce qu'il va vouloir jouer le garde-fou en fait du Rassemblement National, de rappeler effectivement sur la partie économique le programme qu'on peut taxer de socialiste du RN? Est-ce qu'il va aller encore sur les sujets de l'islam, le rapport entre Marine Le Pen et l'islam vis-à-vis de son rapport? Comment est-ce qu'il va faire campagne? D'autant plus qu'effectivement, il n'aura pas autant avec ce média qu'il l'avait avant. Et à Reconquête, on m'avait dit cette semaine que ils étaient plutôt contents que Marine Le Pen soit candidate parce qu'Éric Zemmour a été plus ou moins frustré de ne pas avoir de débat véritable avec Marine Le Pen. Et parce que pendant la présidentielle de 2022, ils ont toujours été très à distance. Ouais. Ils s'envoyaient coup pour coup, mais très à distance. Ils ont jamais fait de débat ensemble. Si une fois sur... à l'époque, c'était chez Hanouna, mais c'était 10-15 minutes. Et donc, en réalité, il y a un côté très frustrant pour Reconquête de ne pas avoir pu...
Ils avaient débattu ensemble.
Ils s'étaient retrouvés face à face.
C'était un peu l'équivalent, c'est vrai.
Il n'y a jamais eu de véritable confrontation de véritable clarification de ligne en réalité, sur même des sujets qui pourraient être sur lesquels ils pourraient être complètement d'accord, sur l'immigration, sur l'insécurité, etc. et je crois qu'il y a une frustration dans ce camp-là de Reconquête.
En tout cas, chez notre confrère Darius Rochebain chez LCI, quand Marine Le Pen a été interrogée sur cette volonté de Jordan Bardella de créer un gouvernement d'union nationale, Darius Rochebain lui a posé la question franchement, lui a dit « Est-ce que Éric Zemmour pourra en faire partie ?» Et Marine Le Pen a dit « Je vois pas du tout la question comme cela, je pense que nous avons trop de divergences avec Éric Zemmour pour que cela se fasse. » Et si vous voulez, elle a un petit peu botté en touche, mais en démontrant que c'était, enfin, qu'il y avait... il y avait une sorte de fracture quoi qui ne se résorberait jamais, une fracture qui est peut-être intellectuelle, idéologique, mais qui est aussi, je pense, sur le domaine personnel, et surtout avec cette divergence stratégique majeure. C'est ce que Jordan Bardella avait expliqué au grand débat des valeurs face aux zémouristes en 2022. Il avait dit: votre stratégie, on la connaît, on l'a eu pendant 25 ans et elle vous fait plafonner à 15%. Au fond, c'est peut-être cela la grande divergence entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. C'est il y en a une qui veut faire 50,01% au soir du second tour, et un qui veut regagner avec ses idées, juste ses idées, rien que ses idées. C'est un peu rien que le programme, tout programme, quoi. C'est un peu la pureté idéologique, en quelque sorte.
Oui, mais il y a aussi une chose importante. Vous parliez de ce gouvernement d'union nationale, comme l'appelle depuis très longtemps Marine Le Pen, depuis 2012, je crois. Elle parle de ce gouvernement d'union nationale qui irait, d'ailleurs, elle l'a encore redit chez Darius Rochebain, possiblement jusqu'à quelqu'un comme Arnaud Montebourg, ce qui d'ailleurs peut être intéressant, à mon avis.
Jean-Philippe Tanguy a parlé des chevènementistes aussi.
Voilà, bien sûr.
S'il en reste,
oui. Effectivement, alors ce gouvernement, c'est aussi l'impossibilité de cette alliance entre Éric Zemmour et Marine Le Pen, c'est qu'au-delà de faire plus de 50,1%, ensuite il faut avoir une majorité à l'Assemblée nationale, et de ce point de vue, vraiment, Éric Zemmour ne sera d'aucune aide, même s'il faisait un bon score, dans le cas où Marine Le Pen serait élue, il est très peu probable que Reconquête ait beaucoup de sièges à l'Assemblée, étant donné le mode de scrutin, qui, c'est vrai, pour ceux qui ne sont pas dans les deux ou trois pôles importants, est absolument terrible, c'est-à-dire que vous disparaissez en fait.
On n'aura pas le débat sur la proportionnelle ce soir. Réaction d'un auditeur qui est Édouard Philippe, maire du Havre. Ce fut une catastrophe. La moitié des commerces ont fermé et l'immigration a fortement augmenté sous son mandat. Bon, en tout cas, d'un point de vue local, l'expérience havraise de cet auditeur le conduirait à ne pas reconduire Édouard Philippe à un destin national.
Ou au contraire, de le conduire pour changer de maire.
De l'éloigner du Havre. De l'éloigner du Havre, oui, c'est peut-être
bon,
ça.
savoir.
C'est un petit peu égoïste, je trouve, comme manière de faire. Mais après tout, pourquoi pas. Restez avec nous, chers auditeurs. Dans quelques instants, nous recevrons l'eurodéputé Nicolas Bay, avec qui nous reviendrons sur l'actualité nationale. Et comme Nicolas Bay a reçu hier le cardinal Sarah, nous aurons quelques questions à lui poser. N'hésitez pas à rester connecté, à rester à l'écoute, puisque nous revenons dans quelques instants. Mais d'abord, un petit message de votre radio.